Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour le débat du jour après une assez longue absence. En effet, la France commence à se déconfiner après 2 mois à la maison, 2 mois pendant lesquels la question des masques, notamment, mais pas seulement, a alimenté la chronique et les questions sur le degré de préparation et la capacité de l'exécutif et aussi tout simplement de l'État, de son appareil, de son administration à répondre à une crise sanitaire qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Mais il y a déjà beaucoup de pression pour comprendre ce qui s'est passé. Des plaintes ont été déjà déposées et la question de la responsabilité à d'éventuelles erreurs est clairement posée. L'État a-t-il failli face au Covid-19? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, 3 invités sont en direct avec nous par téléphone. Distanciation physique oblige. Luc Rouban, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, auteur du livre « La matière noire de la démocratie » aux éditions Les Presses de Sciences Po. Benjamin Morel, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et auteur du livre « Le Sénat et sa légitimité » aux éditions Dalloz. Et Fabrice Lhomme, bonjour. Fabrice Lhomme, vous m'entendez ? Alors Fabrice Lhomme, on va le retrouver dans un instant. Vous êtes journaliste au quotidien français Le Monde, spécialisé dans les enquêtes que vous co-signez avec Stéphane Davet, et vous êtes les auteurs d'une série d'articles parus la semaine dernière sur la France et les épidémies. Alors si vous êtes avec nous, Fabrice Lhomme, on va commencer avec vous. Vous êtes là, vous m'entendez ? Pas de Fabrice Lhomme avec nous. Donc on va... Alors, on va commencer avec cette enquête que vous co-signez avec Stéphane Davet, qui montre que la France était fin prête à répondre à une épidémie de pathologie respiratoire causée par un virus inconnu et très contagieux. Elle était fin prête, mais il y a 10 ans, Fabrice Lhomme.
Oui, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Allez.
Bon, ça va mieux. Alors, petite précision, ce n'est pas Stéphane Davet qui est le spécialiste du rock au monde, mais Gérard Davet.
Oui, Gérard Davet, pardon, oui.
C'est son homonyme, mais ça n'a pas d'importance. Oui, effectivement, on a essayé de retracer, en fait, 20 ans d'histoire sanitaire de la France, en partant à peu près du début des années 2000, et pour examiner, en prenant comme fil rouge les masques, mais les masques, c'est juste un révélateur d'une situation plus générale, quelle avait été cette politique et son évolution. Et très clairement, nous, on a conclu que l'État, à travers des gouvernements successifs, de couleurs différentes d'ailleurs, s'était progressivement désarmé. Et vous parliez tout à l'heure poser la question de savoir si l'État avait failli. Moi, je pense que oui, et l'État au sens large d'ailleurs, et ça va au-delà des dirigeants politiques. De manière globale, pour résumer, on était prêt à affronter un péril imminent il y a quelques années, et quand ce péril est arrivé, on ne l'était plus.
Alors oui, vous le disiez, l'État en général, surtout dans la Ve République, il est incarné par son chef et par l'exécutif, et ça, les anciens ministres de la Santé que vous avez interrogés le savent. Dans l'ordre, il y a Xavier Bertrand, puis Roselyne Bachelot, puis à nouveau Xavier Bertrand, et Marisol Touraine, avec enfin Agnès Buzyn, qui n'a pas répondu à vos questions. Quel est leur état d'esprit par rapport à vos questions et par rapport à ce qui s'est passé depuis 10 ans?
Eh bien, ce qui a été assez révélateur dans l'enquête, c'est qu'on a bien vu que chacun avait des arguments à brandir, qui existent, pour défendre, en fait, chacun défendant sa politique, mais on a bien compris qu'il y avait une volonté d'essayer de renvoyer la responsabilité sur le prédécesseur ou le successeur. C'est un peu comme on se renvoie, on va dire, la patate chaude, parce qu'on sent qu'il peut y avoir des poursuites engagées, etc. Donc, nous, on n'est pas là pour distribuer les bons points. Si on prend un petit peu de recul, on peut dire que jusqu'à 2017, en fait, effectivement, il y avait des arguments qui sont audibles. La France s'est quand même désarmée, mais j'allais dire, les ministres successifs ont des excuses, entre guillemets. Ils ont pris aussi parfois des bonnes mesures, ils ont parfois été dépossédés du pouvoir par l'administration, mais ça passait au-dessus de leur tête. Et enfin, il y a eu des réformes qui ont été faites, qui ont donné des effets qui étaient inverses à ceux qui étaient attendus. Le problème s'accentue, à mon avis, et c'est celui de mon ami Gérard Davet, avec l'arrivée de Emmanuel Macron et surtout la nomination d'Agnès Buzyn au ministère de la Santé, l'arrivée aussi de Jérôme Salomon à la direction de la Santé, où là, on se trouve en termes de protection, j'allais dire, à la rue, permettez-moi l'expression, et rien ne va être fait. C'est ça qui est assez stupéfiant et même troublant. Et j'en conclus d'ailleurs que ce n'est pas forcément par hasard si les seuls qui ne nous ont pas répondu, c'est Jérôme Salomon, Agnès Buzyn et Olivier Véran, car manifestement, je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise sur le sujet. Et on peut les comprendre.
Ouais. Luc Rouban, on vous retrouve. Je suppose que vous avez lu cette série d'articles de Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Mes orientations rock'n'roll ont été découvertes sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'est une excellente série d'articles d'investigation. C'est tout à fait intéressant. Cela étant, moi, j'aurais un point de vue un petit peu plus sociologique, peut-être un petit peu plus, disons, théorique. Mais je suis tout à fait d'accord avec un certain nombre de points qui sont soulignés dans ces articles. Mais sur le fond, si vous voulez, le problème, je pense, mais il est souligné dans ces articles, c'est que quand on parle de l'État, on parle généralement d'un système, on croit que c'est un système homogène, mais c'est pas un système homogène. Il y a des strates, il y a des corps, il y a des centres de pouvoir différents. Et c'est vrai que vous avez le problème de la relation entre les élus, du moins les décideurs politiques, les ministres, les cabinets, les états-majors de l'Élysée, de Matignon, mais aussi du ministère de la Santé, les différents acteurs comme les agences, ensuite les préfets, les collectivités locales. Donc en fait, dans l'affaire de la crise sanitaire, il est question évidemment de l'État, mais il est surtout question, d'une manière plus générale, de l'action publique, c'est-à-dire de la désorganisation de l'action publique en France sur un sujet qui, bien entendu, est tout à fait essentiel, qui est la sécurité sanitaire. Et si vous voulez, là, il y a eu vraiment un traumatisme dans l'opinion, parce que aussi, du point de vue de la science politique, on le voit bien dans les enquêtes qu'on a pu faire, notamment au CEVIPOF avec le baromètre de la confiance politique, c'est bien en France que les critiques sont les plus fortes à l'égard de la gestion par l'État et par le gouvernement de cette crise. Et si vous voulez, par rapport notamment à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Et si vous voulez, le problème, il est là, c'est que vous avez un débat qui concerne l'identification des décideurs, qui décident, et ça, c'est pas évident. Et souvent, c'est un gros problème, parce que souvent, les décisions se prennent, mais on est absolument incapable de savoir qui a pris vraiment une décision, puisque c'est un système d'interrelation complexe. Donc, vous avez ce problème de la responsabilité politique. Et puis, vous avez ce problème de fond qui est apparu très puissamment. C'est le problème des rapports entre l'État et les collectivités territoriales, des rapports au sein des différents organismes même qui ont participé à la gestion de la crise sanitaire, et on voyait que les préfets prenaient des décisions, mais que les préfets n'avaient pas de compétences sur les agences régionales de la santé, qui elles-mêmes s'occupent de politiques sanitaires dans de très grandes régions qui ont été constituées en 2015 et où les problèmes sont immenses. Donc si vous voulez, je donne quelques exemples, mais si vous voulez, vous avez beaucoup de problèmes de cette nature qui montrent que, par exemple, par rapport à la lutte contre le terrorisme, où là, l'État a été particulièrement efficace à partir de 2015, il a su nommer des chefs de file. Là, vous n'avez pas de chef de file, et c'est, je crois, l'un des gros problèmes du système français à l'heure actuelle.
Oui, Benjamin Morel, vous êtes un spécialiste en droit public. Un État, c'est quelque chose d'évolutif qui bouge avec les majorités, ou est-ce qu'il y a une forme de continuité, de permanence? J'hésite un petit peu à employer le concept qui vient plutôt des États-Unis. Est-ce qu'il existe un État profond qui assure la continuité de l'administration de l'État?
Si vous voulez, l'idée d'État profond, elle me semble fondamentalement connotée, donc je ne la reprendrai pas forcément à mon compte. En revanche, il existe en effet un État qui perdure au-delà des majorités politiques. Alors, on peut penser que ça peut être un problème, en effet, parce que du coup, vous avez une forme d'inertie, une force d'inertie de cet État. Et en même temps, c'est également nécessaire pour le suivi des politiques publiques, parce que l'État, et au vu des champs d'intervention de l'État en France, ça reste une machinerie extrêmement complexe. Si vous aviez de nouvelles équipes qui devaient réapprendre l'ensemble du fonctionnement de chaque politique publique à chaque fois, sachant que la plupart du temps, il y a évidemment une possibilité de modifier dans le sens d'un programme politique ces politiques, mais souvent, il s'agit d'abord et avant tout de faire fonctionner cette machine qu'est l'État. Évidemment, ce serait beaucoup plus compliqué. Alors après, on viendra sans doute au sujet de qu'est-ce que c'est cet État, qui est dans cet État, comment est-ce qu'on organise les rapports entre le sommet de la hiérarchie et la base de la hiérarchie. Là, il y a de vraies questions qui se posent également. Après, pour revenir à votre question initiale, est-ce que l'État a failli? Je crois qu'il faut distinguer trois choses, si vous voulez. Il y a trois aspects dans la gestion de cette crise. Il y a l'aspect économique sur lequel on a vu, on fera sans doute tout à l'heure des reproches à Bercy qui seront des reproches, on va dire, nécessaires, importants et tout à fait justifiés. Mais là-dessus, on voit que le ministère de l'économie a agi en effet avec beaucoup d'efficacité. Et ensuite, l'aspect plus politique, plus police-administrative. Comment est-ce qu'on arrive à gérer, à confiner l'ensemble du pays et à construire une politique relativement cohérente du point de vue d'une restriction nécessaire, limitée des libertés. Là-dessus, on a un État qui a plutôt bien fonctionné, beaucoup mieux par exemple en Italie. En Italie, vous savez que comme la réforme de 2016 n'est pas passée, la réforme constitutionnelle, le gouvernement italien n'a pas pu imposer à la région Lombardie une forme d'isolement dès le départ, ce qui aurait sans doute conduit à beaucoup modérer l'ensemble de cette crise à la fois en Italie et en Europe. Pour le coup, on a beaucoup attaqué l'État jacobin ces dernières semaines, mais là-dessus, il a été particulièrement efficace et particulièrement nécessaire. Et ensuite, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un troisième aspect qui, là, fondamentalement, a posé des problèmes majeurs, des problèmes graves, et c'est cet aspect politique sanitaire, organisation à travers le ministère de la Santé, mais loin. Mais pas seulement le ministère de la Santé, également les collectivités, les ARS, l'administration déconcentrée de l'État, eh bien, on a vu des organisations et des dysfonctionnements qui sont très problématiques.
Fabrice Lhomme, tout au long de votre enquête, est-ce que vous avez constaté qu'il y a quand même des choses qui ont fonctionné dans la réponse de l'État à l'épidémie ?
Vous voulez dire dans cette période, la période récente ?
La période récente, oui, pas sur les 10 ans qui viennent de se dérouler, sur les 3 mois, disons.
Alors, ce qui a fonctionné, je pense, c'est ce qui a été dit précédemment. Je pense notamment la prise en compte sur le plan économique immédiatement du sujet avec des mesures, on va dire, radicales, très spectaculaires et qui ont été quand même plutôt efficaces. Il y a eu tout un tas de choses qui ont fonctionné. Maintenant, nous, on s'est intéressé pas du tout à cet aspect-là. Nous, on s'est vraiment intéressé sur le terme de la protection du public. Et là, jusqu'à la dernière période, il y a encore eu des dysfonctionnements, puisque c'est le début de notre dernier article, puisque c'est une série de 5 articles. C'est ce qu'on a découvert à la fin, qui nous a laissé un peu ébahis. C'est-à-dire qu'alors que la France était confinée, qu'on recherchait déjà désespérément des masques, puisque nous sommes à la fin du mois de mars, des masques sont détruits parce que c'est trop vieux, alors qu'en fait, une partie d'entre eux n'était pas périmée. Et la preuve que c'était un vrai problème, c'est que Matignon découvre, et c'est ça qui est intéressant, Matignon découvre que des masques sont en train d'être détruits. Dans l'entourage d'Edouard Philippe, on pousse un coup de gueule et on arrête les destructions et on récupère des masques qui vont être mis en circulation. Donc ça illustre, pour revenir à ce qui a été dit précédemment, qui était intéressant, ça illustre ce phénomène qui, à mon avis, est quand même assez spécifique à la santé, c'est-à-dire le pouvoir des experts, des hauts administrateurs qui ont dessaisi le politique, ou plutôt le politique s'est dessaisi de ces questions-là. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment très spécifique. Si vous voulez, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de secteurs, j'ai rencontré beaucoup de ministres, des ministres de l'économie, des ministres de l'intérieur, des ministres de la justice. Quand on leur soumet des solutions ou des problèmes, ils s'entourent d'avis. Ils regardent ce que leur remettent leur administration. Ils demandent éventuellement des experts. Mais ils ont les moyens de savoir comment jauger telle information. Dans le domaine de la santé, on est souvent dans des problématiques très spécifiques où ce sont donc les fameux experts qui ont la parole. Marisol Touraine, elle nous le dit elle-même. Elle nous le dit à un moment, elle nous dit, mais écoutez, à un moment, nous, on me rend des rapports, les experts ont dit ça. Et quelle légitimité j'ai, moi, pour aller à l'encontre des avis des experts? Et ça, vous ne l'aurez pas forcément dans les autres ministères. S'il y a un rapport qui arrive sur le bureau de Bruno Le Maire qui dit, les experts en économie qui lui disent, il faut faire attention, il ne faut pas faire trop de relance, sinon ça va faire de l'inflation, Bruno Le Maire, il est en état de dire, je m'en fiche, moi je pense qu'on peut juguler l'inflation en faisant une relance. Je donne un exemple parmi d'autres. Et donc, je pense que c'est spécifique à ce secteur et ça engendre des conséquences qui ont été néfastes.
Luc Rouban, c'est l'administration ou le politique qui ont échoué à préparer cette crise? Est-ce que ce sont finalement les rapports entre les deux qui ont causé ce qui s'est finalement passé?
Oui et non, parce que vous avez aussi des problèmes.
Est-ce qu'il y a un jeu d'influence entre les deux? Enfin, comment ça se passe?
C'est plus compliqué que ça, parce qu'au sein même de l'administration, vous avez des strates différentes. C'est-à-dire que vous avez le système des états-majors des cabinets, qui prend vraiment les décisions, ou du moins qui les met en forme et qui définit les choix au sein desquels le politique devra choisir, devra se décider. Donc, vous voyez, il y a un phénomène de filtre et un phénomène d'entonnoir successif. Mais, si vous voulez, vous avez donc, d'une part, ces états-majors, Ensuite, vous avez les grandes directions ministérielles, et puis vous avez les services de terrain, et puis il faut quand même pas oublier tous les services hospitaliers. C'est eux qui ont fait tenir, si vous voulez, la réponse publique, c'est eux qui ont offert... qui se sont dévoués pour et qui ont travaillé sans compter pour aider les Français. Donc le problème il est là, c'est-à-dire que en fait vous avez d'une part un problème de remontée de l'information du terrain vers le sommet parce que vous avez des filtres successifs et donc finalement par ce système d'entonnoir le politique ne peut choisir qu'entre une, deux ou trois options relativement limitées. Effectivement, alors dans le domaine sanitaire, je suis tout à fait d'accord avec cet argument, c'est très particulier parce que vous avez le rôle des médecins, le rôle des scientifiques, des biologistes, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, donc c'est pas facile. Du reste, bon, là on est en train d'amender, si j'ai bien compris, des textes de loi qui visent à limiter la responsabilité des élus locaux, parce qu'on sait très bien que l'information scientifique n'est pas disponible pour tout le monde et au même moment, et en plus elle n'est pas facile à comprendre. Donc, en plus, on est en terrain inconnu parce qu'on ne sait pas trop de choses sur ce virus. Donc, si vous voulez, le problème, il est là. Donc, si vous voulez, vous avez ce problème de remontée d'informations, mais d'une manière générale, je crois qu'on a assisté à une certaine faillite du système dans la mesure où, effectivement, vous avez, vous avez eu un exemple flagrant du fait que très souvent, les états-majors ne connaissent pas le terrain, la réalité du terrain, de ce que vivent les agents de terrain et les usagers. Et ça, c'est un vrai problème, je dirais, au cœur même du macronisme d'une manière générale. C'est-à-dire que vous avez des élites qui sont quand même un petit peu hors sol, et c'est vrai aussi pour les députés de la République En Marche, pas tous, mais une bonne partie. C'est vrai pour un certain nombre de membres de cabinet. Donc vous avez peut-être ce manque d'expérience, ce manque de remontée d'informations, et donc vous avez aussi des conflits internes à l'appareil d'État. Vous avez beaucoup de médecins hospitaliers qui étaient furieux de cette depuis des années, parce que le conflit est quand même ancien au sein de l'hôpital public. Donc ça fait un an qu'il y a eu des grèves dans les services d'urgence. Bon, tout cela n'a pas vraiment suscité de réaction immédiate au niveau gouvernemental. Donc, si vous voulez, vous avez ces problèmes de conflit qui se nouent toujours autour d'un problème central. C'est l'idée de la gestion. C'est-à-dire que dans le fond, de plus en plus, on est allé vers une gestion financière et comptable, très abstraite, ne tenant pas compte des réalités du terrain. Et ça explique aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'explique M. Lhomme et son collègue dans les articles, c'est que finalement, la haute administration a baigné dans cette culture, disons, entre guillemets, managériale, où il s'agissait surtout de réduire les dépenses publiques. Donc on a complètement perdu de vue les grands enjeux stratégiques, la définition d'une politique sanitaire qui aurait pu être centralisée mais qui n'a pas été, et donc une série sans doute de catastrophes en chaîne.
Ouais, Benjamin Morel, vous nous indiquiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelque chose à voir du côté de Bercy. Est-ce que l'État a été dépouillé au fil des ans par ses choix ou ses absences de choix budgétaires? Est-ce qu'on a eu un problème à définir des priorités sur ce qu'il fallait financer ou pas?
Si vous voulez, au-delà des priorités, c'est-à-dire que je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il y a une problématique qui a été une problématique de choix d'abord et avant tout budgétaire. Prenez Santé publique France, entre 2010 et 2009, 20% des effectifs ont été supprimés. On paye en partie la RGPP, on paye une réduction des moyens humains de l'État. Le nombre de fonctionnaires d'État en France entre 1996 et 2017, a baissé de 1,7% dans la fonction publique d'État. Alors, on ne peut pas toucher en revanche à la fonction publique territoriale, qui elle a augmenté de plus de 56%. Donc, comme vous avez des gouvernements qui ont envie de vendre la baisse du nombre de fonctionnaires en France, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne peut pas toucher à la fonction publique territoriale, parce que libre administration des collectivités territoriales, etc., eh bien, on rogne sur la fonction publique d'État. En grande partie, cette fonction publique d'État, c'est quoi? Eh bien, ce sont les enseignants, ce sont également ces personnels qui, dans le cadre de la santé, alors vous avez la fonction publique hospitalière, mais c'est autre chose, eh bien, vont intervenir. Donc là, on a un vrai problème, parce que du coup, ce sont des personnels de terrain qui ont été sacrifiés et qui devaient justement représenter cet instrument de lien entre d'un côté l'administré et de l'autre le haut de la hiérarchie, et on a sacrifié notamment l'administration déconcentrée de l'État, notamment au niveau des départements.
Vous diriez qu'il y a un défaut de remontée ou un défaut d'écoute?
Il y a un défaut de remontée, il y a un défaut d'écoute et il y a un défaut, si vous voulez, de caractère opérationnel de cette administration d'État. Parce que quand vous décidez que l'administration déconcentrée va d'abord et avant tout être au niveau de la région, à ce moment-là, qu'est-ce que vous produisez au niveau de la région? Vous produisez des normes, vous ne produisez pas de l'action opérationnelle. Donc le fait d'avoir épuisé une partie de cette administration déconcentrée, rend l'État beaucoup moins opérationnel et rend l'État également beaucoup moins à même de comprendre le terrain. Donc là, il y a un impératif budgétaire qui fondamentalement est problématique. Il y a d'autres problèmes. Ensuite, vous avez une administration qui fonctionne en grande partie en silo, avec, pour la question qui nous intéresse, une vraie difficulté de communication entre, par exemple, les ARS et Santé publique France. Donc, toutes ces raisons-là, un État qui, je rejoins ce qui a été dit, n'est pas une sorte de monstre monolithique, est au contraire extrêmement morcelé, et ça fait en grande partie son problème. Un État qu'on a mis au régime pendant des années et qui, du coup, n'a plus tout à fait les moyens de ses ambitions, tout ça fait que, au bout du compte, le jour où la crise arrive, impératif budgétaire faisant, l'État n'a plus les moyens d'agir comme il le devrait.
Fabrice Lhomme, à un moment, et c'est ce que vous avez pu constater au cours de votre enquête, c'est le coût financier et politique d'ailleurs de la prévision et de la précaution et même du principe de précaution est devenu trop élevé. On s'est dit, oulala, comme ce qui est arrivé à Roselyne Bachelot qui a été moquée pour avoir acheté 94 millions de doses de vaccins contre la grippe H1N1. Est-ce qu'on s'est dit à un moment où on va peut-être pas en faire autant que ce qui a été fait?
Oui, clairement, ça c'est l'épisode H1N1 de 2009-2010, et comme le dit Roselyne Bachelot, on a eu tellement le sentiment d'en avoir fait trop qu'ensuite on n'en a pas fait assez. C'est-à-dire l'idée, on a été critiqué, c'est vrai que la Cour des comptes, l'opposition, tout le monde avait critiqué le gouvernement à l'époque où Roselyne Bachelot officiait comme ministre de la Santé pour avoir trop dépensé pour rien, entre guillemets, alors que c'était pas pour rien, mais peu importe, dans l'image publique, c'était ça. Et donc, on est passé d'un extrême à l'autre, en quelque sorte. Je dis pas d'un excès à l'autre, mais d'un extrême à l'autre. Parce que sans doute n'était-ce pas excessif ce qu'avait prévu Roselyne Bachelot. C'est le principe de précaution. Oui, elle l'assume, et je pense qu'elle a raison là-dessus. Il vaut mieux, effectivement, commander des masques, des vaccins, quitte à en jeter une partie parce qu'ils seront ensuite périmés, surtout les vaccins, plutôt que se retrouver à avoir pris au plus juste et être débordé. Et parce qu'à l'arrivée, c'est des vies que ça coûte. Dans un cas, ça coûte de l'argent, dans l'autre cas, ça coûte des vies. Donc, où est le choix? Et malheureusement, on a fait le choix de ce qui coûtait le moins d'argent. Et ça, même Roselyne Bachelot, d'ailleurs, le dit concernant le moment où elle était là. Et Nicolas Sarkozy et François Fillon, elle stigmatise quand même la fameuse RGPP, les révisions générales des politiques publiques, dont elle dit que ça a eu comme conséquence de chercher à réduire les coûts, y compris dans son ministère. Et j'ai un autre exemple, c'est pas Sarkozy, c'est sous Hollande, que nous dit Benoît Vallet, qui est à l'époque directeur général de la Santé, et donc sur la période, on va dire, 2012-2017. Marisol Touraine avait prévu, sur les conseils de son directeur de la Santé, d'augmenter le fameux stock de masques, qui était à 600 millions. L'objectif, c'était suivant les recommandations, d'en avoir 1 milliard en stock. Ils avaient même pour objectif d'en avoir 1,1 milliard. Pourquoi? Ils avaient programmé 100 millions d'achats de masques par an. 100 millions de masques. 5 ans, quinquennat, on dépassait le milliard. Et combien on a-t-il acheté finalement? Seulement 100 millions au début. Pourquoi ensuite? Restrictions budgétaires. C'est ce que nous a dit Benoît Vallet. Il nous a employé cette formulation qui m'a beaucoup plu. Il y a eu des interférences avec la ligne budgétaire. Clairement, Bercy a dit non, faut arrêter avec ça. Ça sert à rien. Donc, on arrête. Il faut savoir que 100 millions de masques, c'est dérisoire. C'est 3,2 millions d'euros. Mais voilà, ça fait 400 millions de masques de plus qui ont manqué quand on en aurait eu besoin, pour des sommes relativement faibles malgré tout, mais sauf qu'il fallait couper ce qui apparemment ne servait à rien.
Luc Rouban, les conséquences politiques de tout ça, quelles peuvent-elles être? Est-ce que ça va changer la façon d'aborder les choses, et pas uniquement sur le plan comptable? Est-ce qu'on va ressusciter la prévision qui manifestement a fait défaut?
Écoutez, pour relancer la prévision, il faudrait, je dirais, modifier à nouveau la culture de la haute fonction publique, parce que cette culture de la prévision, de l'anticipation, cette vision de l'État, elle était très forte dans les années 50, 60, 70. Et depuis, je dirais, 2 ou 3 décennies, on s'est appliqué à former, je dirais, les hauts fonctionnaires dans la perspective de la nouvelle gestion publique, ce qu'on appelle le New Public Management. Avec l'idée que, dans le fond, ils iront aussi travailler dans le privé, qu'ils formeront des élites polyvalentes. Et pour le dire simplement, le sens de l'État a progressivement disparu, pas partout, mais dans une partie des sommets où, dans le fond, bah, le service de l'État n'était qu'un tremplin, qu'une étape dans une carrière qui allait être beaucoup plus diversifiée, notamment du côté du privé. Et si vous voulez, le problème, il est là. C'est que cette culture de l'État, du service de l'État, a quand même un petit peu fondu. Et donc, pour la reconstituer, eh bien, il va falloir très sérieusement remettre sur le chantier la réforme de l'État, la formation des hauts fonctionnaires, et puis aussi un autre point très très important, et qui est déjà ouvert, c'est la question de la décentralisation. Et je crois que ça va être vraiment l'une des grandes conséquences de la crise sanitaire sur l'organisation institutionnelle de la France. Je ne pense pas qu'il y ait de véritables conséquences constitutionnelles. Parce que je pense pas, enfin, à titre personnel, je pense pas qu'un régime parlementaire à la proportionnelle aurait permis de mieux s'assurer de mieux traiter la crise sanitaire. Seulement, en revanche, la question de la place des collectivités locales, de leur autonomie est clairement posée. Et on voit d'ailleurs un certain nombre de maires qui protestent, qui sont assez furieux contre cette loi d'urgence sanitaire qui finalement les a recentralisés, les a transformés en simples agents de l'État. Donc on a vraiment une vraie question se pose maintenant, qui est celle de la répartition des politiques publiques entre l'État et les collectivités locales.
Benjamin Morel, Luc Rouban parlait à l'instant de nouveau management public. Est-ce que l'État peut, doit, et on n'est pas tombé sur un exemple assez parlant là, être organisé comme une entreprise du secteur concurrentiel, ou est-ce qu'il faut avoir d'autres priorités ?
Parce que l'État vise l'intérêt général, si vous voulez. Donc l'État ne peut pas être organisé comme un système concurrentiel. Donc il y a un vrai travail sur la formation, hein. Là je rejoins le Crouban. Sur la décentralisation, il faut faire attention. C'est-à-dire que quand on regarde un peu tous les États européens, on voit que l'Allemagne est une sorte d'exception qui n'en est pas une, en fait, parce qu'elle a en grande partie recentralisé dans le cadre de cette crise sanitaire, notamment avec la loi du 26 mars qui permet de se passer du Bundesrat pour que le ministre de la Santé puisse passer au-dessus de la tête des Länder. Donc c'est plus compliqué que ça, si vous voulez. Ça dépend ce qu'on entend par décentralisation. Si c'est régionalisation à nouveau, on crée des monstres technocratiques, si vous voulez, à la fois au niveau de l'administration déconcentrée et au niveau de la décentralisation également. Si c'est renforcer les établissements publics, les EPCI, on tue également la démocratie locale et on ne crée pas forcément plus d'efficacité. Si en revanche, c'est mettre face au préfet un département qui a une capacité d'agir et de contrôler l'administration déconcentrée réelle, là oui, si jamais il s'agit de revaloriser le rôle des maires qui a, et dont on a vu que là-dessus, il avait à la fois un rôle démocratique et un rôle en termes d'efficacité premier, la réponse est également oui. Mais la décentralisation, ce n'est pas tout noir ou tout blanc sur toutes ces questions-là. Il y a une autre question également qui doit être abordée pour revenir sur l'État central. C'est la question du rôle du Parlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contrôle parlementaire est assez fantomatique, pas parce que les parlementaires n'ont pas envie de le faire, même si évidemment il y a des questions de fait majoritaire, etc., mais parce que les capacités d'action des parlementaires en termes d'expertise sont en fait très limitées. Alors ce que je vais dire, c'est peut-être un gros mot, mais il faut revaloriser également les moyens du Parlement pour lui donner les capacités d'enquête, d'action pour contrôler l'administration et l'exécutif, à la fois sur ses missions de contrôle, mais également sur ses missions en tant que législateur, pour que tout bêtement, la loi qui soit votée ne soit pas la loi qui est celle soumise par l'administration via son ministre, mais que cette loi-là, eh bien, elle fasse l'objet d'une vraie réflexion parlementaire et donc d'un vrai contrôle démocratique.
Fabrice Lhomme, est-ce qu'on est dans une affaire de l'ampleur de celle du sang contaminé ? Il nous vient à l'esprit des choses comme responsable mais pas coupable, puisque les torts sont partagés apparemment ?
Oui, alors en France, on a souvent tendance à comparer les affaires les unes aux autres.
Oui, comparaison n'est pas raison, bien sûr, évidemment.
Voilà, à renvoyer sur ce qui s'est passé précédemment. C'est différent pour plein de raisons, on va dire, mais il y a quand même quelques points communs, à savoir qu'à un moment, il y a des justiciables qui vont estimer, ils l'estiment déjà, que l'État a dysfonctionné et que ce dysfonctionnement a été la cause directe des malheurs qu'ils ont subis. Et alors, est-ce que c'est le cas ou pas ? Ce n'est pas à moi de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que je pense, et là, ce sera donc le point commun avec l'affaire du sang contaminé, je pense qu'à un moment, qu'on veuille ou non, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, la justice dira aussi sa vérité dans cette histoire. Et la justice, que ce soit la justice de droit commun, la justice pénale classique, qui pourra s'intéresser au rôle des hauts fonctionnaires dont on parlait, ou même de dirigeants de tout bord, et puis la Cour de justice de la République qui examinera le rôle spécifique, par exemple, de tel ou tel ministre de la Santé. Et je pense que ça aura lieu d'une manière ou d'une autre, et ça peut comment dirais-je, ça peut avoir effectivement de lourdes conséquences si d'aventure il y avait des condamnations.
Merci Fabrice Lhomme. Vous saluerez bien Gérard Davet pour nous, et non pas Stéphane. Enfin, vous pouvez saluer aussi Stéphane Davet. Merci Luc Rouban. Merci Benjamin Morel. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Merci à Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Christophe Loisel. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.